Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je ne vais pas vous dire une fois de plus que je suis heureux d'être là, vous le savez tous. C'est la première fois que je viens pendant l'Avent, dans votre paroisse. L'Avent, un temps riche en enseignements, riche en compagnie de grands personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Le prophète Isaïe, fils d'Amos. Le prophète Daniel, que nous avons entendu tout à l'heure. Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui fait le joint entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le lien. Et Marie, la Mère de Dieu. Et vous savez que ce temps, historiquement, ce temps de l'Avent est une invention de nos ancêtres, les Gaulois, les Gallo-Romains, ou les Gallo-Francs, comme on voudra. Ce temps qui est un résumé en 42 jours de toute l'histoire du salut. Les spécialistes disent l'économie du salut. Il ne s'agit pas d'avarice, hein. Économie, ça veut dire organisation. Et aujourd'hui, l'Église, pendant ces 42 jours, nous propose trois textes, trois lectures que vous venez d'entendre et qui sont un peu déconcertantes. Elles peuvent paraître effectivement déroutantes. C'est pourquoi il convient de s'attarder un peu sur leur sens et surtout essayer de trouver le fil rouge qui les relie. Alors, je vais les reprendre avec vous, si vous voulez bien, successivement. Tout d'abord, le texte de Daniel, le prophète. Il nous dit que le règne du Christ, le règne du Messie, est un règne universel. Il nous dit que Dieu est le roi et le Dieu de tous, sans exception, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, sans distinction, sans exception. Et je dirais même plus, si nous regardons les psaumes laudiques, par exemple, les psaumes laudiques qui font une énumération de toute la création. Dieu est le Dieu et le roi des pierres, des animaux, des plantes, des érables rouges. Le salut est pour tout ce monde-là. Et il nous concerne aussi, chacun de nous, d'une façon particulière. La bonne nouvelle s'adresse à tous, à travers le temps et à travers l'espace. C'est pourquoi, le soir de Noël, nous chantons « Le Christ est né pour nous, pour nous ». Isaïe, d'ailleurs, insiste beaucoup là-dessus. Et encore une fois, le texte de Noël, qui sort directement du chapitre 8 d'Isaïe, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, pas à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ? » Nous sommes concernés directement. Tous sont concernés. Je crois qu'il y a un théologien dont le nom m'échappe maintenant, qui disait « Nous sommes tous les préférés. Je suis le préféré de Dieu, mais vous aussi. Nous sommes tous ses préférés. » Ensuite, le deuxième texte, celui de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul insiste un peu, il vient rajouter ce que dit le prophète Daniel. Le Christ, dit-il, nous a tous accueillis. Les uns, les Hébreux, à cause de la promesse faite au patriarche, les autres, les païens, à cause de la miséricorde. Mais le résultat est identique. Le résultat est le même, car il n'y a en Dieu aucune sélection sociale, aucune sélection raciale. Dieu ne fait pas acception des personnes. C'est un terme un peu compliqué, faire acception des personnes. On l'a oublié un peu. Mais ça veut dire d'une façon très claire, personne n'est oublié, et ce n'est pas le rang social qui est important. D'ailleurs, il y a un prophète qu'on lit rarement, et qui est parce qu'il est très court, et qu'on ne lit pas le dimanche, le prophète Jonas. Et lui, il nous explique que Dieu a décidé de faire miséricorde aux pires des païens, les gens de Ninive, qui sont considérés comme pas du tout fréquentables, n'est-ce pas? Bon. Et il a décidé de faire miséricorde même aux pécheurs de Ninive. Le signe de Jonas, d'après le Christ, ça n'est pas les 3 jours dans la baleine ou dans le poisson, c'est le signe de Jonas, c'est le salut est universel. Et l'apôtre conclut son texte en disant « Dieu nous appelle à la paix et à la joie par la puissance de l'Esprit-Saint. » Deux mots très importants, la paix et la joie. Alors, on peut se poser la question, comment acquérir cette puissante espérance qui nous plonge dans la joie enthousiaste? C'est une expression favorite du père Alphonse Guttmann, la joie enthousiaste. Comment acquérir cette joie? Comment avoir cette espérance puissante? Espérer, dans beaucoup de langues, en particulier en espagnol, en italien, en provençal et d'autres, espérer, ça veut dire attendre. En provençal, excusez-moi, c'est mon pays, alors je connais bien la langue. Esperum pau, ça veut dire attends un peu. Alors on traduit généralement par espère, mais c'est pas ça, c'est attendre. Espérer, c'est attendre. Attendre. Une puissante espérance, c'est donc une attente ardente et frémissante de vie. Ça n'est pas une attente anxieuse et stressante, non. C'est le vrai sens de l'Avent, d'ailleurs. Ensuite, le troisième texte, l'Évangile. L'Évangile que nous venons d'entendre à l'instant et qui commence par un mot très important. Veillez, dit le Christ. Et généralement, ça c'est un truc que je vous donne, un truc de commentateur. Généralement, dans une péricope, le premier mot, c'est le mot le plus important. Très souvent, tout est résumé dans le premier mot, tout ce qui va venir après. Veillez, c'est-à-dire restez éveillés, ne vous endormez pas. Ne vous laissez pas appesantir par les soucis du monde, par la peur, par les habitudes, les automatismes, vous savez, qui sont complètement inconscients. On fait des choses, on ne se rend pas compte. Notre esprit est endormi de cette façon. Réveillons-nous. Restons attentifs à la parole de Dieu, au Verbe divin. le Verbe, le Christ lui-même. Ensuite vient le cœur de l'enseignement d'aujourd'hui. Je l'ai gardé pour la fin. Le Christ nous dit « Heureux le serviteur qui distribuera la nourriture en temps opportun à ses compagnons. » Or, cette nourriture, qu'est-ce que c'est la parole? C'est la parole de Dieu elle-même. Et tout particulièrement, la parole incarnée de Dieu, la divine Eucharistie. Ça semble, vous allez dire, l'évêque, il enfonce des portes ouvertes. Mais il est bon de répéter à temps et à contre-temps les choses essentielles. La parole, on l'entend par les oreilles, mais on la reçoit dans la bouche, par la Sainte Communion. C'est la même parole. Et elle nous nourrit. Elle nous nourrit par les oreilles et elle nous nourrit par la bouche. Ne soyons pas, j'allais dire, n'hésitons pas à nous approcher de la communion. Cette parole, donc, nous devons la distribuer cette nourriture. Pas seulement nous, les prêtres, mais nous tous, les chrétiens. Nous devons distribuer la parole de Dieu à tous, sans exception, puisque tous sont appelés au salut. Il nous faut donc répandre la bonne nouvelle de la joie et de la paix de Dieu, sans cesse, partout, à temps et à contre-temps. C'est l'essentiel de notre mission. Tout à l'heure, j'y pensais parce que dans les partitions anciennes des laudes, telles que vous les avez ici, il y a un petit texte que nous ne chantons plus maintenant, qui vient du rite byzantin, que Monseigneur Jean avait appelé la missa. Missa, la messe, la mission. Il avait pris ce nom parce que en grec, ce texte s'appelle exapostilarion, c'est-à-dire l'apostolat extérieur, l'apostolat, donc la mission en fait. C'est le même mot. Et la mission du chrétien, c'est de chanter la louange de Dieu et d'annoncer les bienfaits divins à temps et à contre-temps, pour nourrir le monde. Car nous sommes les intendants de Dieu. Il nous a donné la mission d'être ceux qui distribuent sa parole, comme un intendant, n'est-ce pas, distribue à ses serviteurs. Et si nous faisons cela, nous entrerons avec lui dans la salle des noces, à lui la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen.